Samuel 30, du verset 1 jusqu'au... en entier, apparemment. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tsilak, avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Négev et à Tsilak. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Achinoam de Jisrael et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Akimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et deux gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu ?» Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien. J'étais au service d'un Amalécite, mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklak. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir, et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce que l'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disait « Voici le butin de David ». David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire ? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. » Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite, et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. De retour à Tziklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, qui étaient ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois aux anciens de Bethel, de Ramoth, dans le Négev, de Jatir, d'Aroer, de Sipmoth, d'Estemoa, de Rakal, des villes des Jérakmélites, des villes des Kéniens, de Horma, de Kor-Hazam, d'Atak, d'Hébron, et dans tous les endroits que les hommes et lui avaient parcourus.
Dimanche dernier, le 11 novembre, on a célébré le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie a eu lieu ici à Paris avec des représentants des différentes nations. Et dans les médias, on a pu avoir le témoignage de personnes qui ont vécu ces événements, des témoignages du passé. Mais grâce à ces témoignages, eh bien, on a justement pu avoir une petite idée de leurs conditions de vie, mais aussi de mort. On avait annoncé à ces poilus, le surnom qu'on donnait aux soldats, une guerre éclair. Et qu'est-ce qu'ils ont eu ? Une guerre de tranchées. L'absence d'hygiène, l'alimentation insuffisante, le froid, le gaz, les décès autour d'eux en nombre. Et certains, comme le soldat Eugène Démon, ont survécu au combat. Mais s'il y échappe, il meurt un an plus tard, en 1919, de courbatures fébriles. Et j'imagine, bien entendu, que tout le monde sait ce que c'est ici, les courbatures fébriles. Mais c'est en fait une pathologie qu'on a identifiée chez nombre de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Un état de fatigue, de lassitude, des douleurs au thorax, au dos, des maux de tête, de la fièvre, une tendance à refuser de la nourriture. Et on peut résumer la situation en disant qu'ils étaient mentalement et physiquement complètement à bout de force, exténués. Ce n'est pas la même époque, ni le même type de conflit, mais on rentre ici dans un texte qui nous parle de combattants qui sont à bout de force. Et c'est un peu le fil rouge de notre récit. Remarquez au verset 4 que lorsque David et ses hommes rentrent chez eux, qu'ils trouvent la ville complètement rasée, leurs femmes et leurs enfants emmenés, ils pleurent, je cite, « jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer ». La situation est si désespérante qu'une mutinerie se prépare. Les hommes parlent de s'en prendre à David, de le lapider. Et le sentiment d'être à bout de force se retrouve au verset 10, lorsqu'un tiers des hommes de David ne peut tout simplement plus continuer. Ils sont exténués. Verset 12, c'est un esclave égyptien qu'on trouve à bout de force. Il a été abandonné 3 jours plus tôt par son maître, Amalécite, qui le considérait en fin de vie. Si ce texte se termine avec un beau dénouement et des forces retrouvées, il devrait être l'occasion de nous intéresser à ces moments où précisément on est à bout de force. Quelqu'un a le sentiment de ne plus pouvoir aller de l'avant, au bout du rouleau, comme on dit. Au-delà du repos physique dont chacun a besoin, on va se poser la question du besoin de renouvellement sur un plan spirituel. Où va-t-on trouver les forces pour se relever ? Où se tourner quand on est à bout ? Et je vous invite à parcourir ce texte en trois temps. À bout de force, dans les versets 1 à 6, la force, sa force dans le Seigneur, la générosité en force. Avant de se lancer dans le récit, quelle est l'intention de cet auteur du livre de 1 Samuel ? Eh bien, 1 Samuel nous place en fait dans l'attente d'un roi qui sera selon le cœur de Dieu. À quoi ressemble le roi selon le cœur de Dieu ? Eh bien, on commence par voir ce que ce n'en est pas. Je ne vais pas y revenir. Saül est le premier roi que la nation a eu. Et comme un roi qu'ils attendaient, auquel ils aspiraient, c'est ce qu'ils voulaient, un roi comme les autres nations, eh bien, c'est ce qu'ils ont eu, c'est ce qu'ils ont obtenu. Un roi qui est grand, qui est de belle apparence, mais comme les autres rois des nations, abuse du pouvoir. Il sert ses intérêts plutôt que ceux du peuple. Il est plus attaché à son ego qu'à Dieu, plus attentif à ses instincts que ce que Dieu lui demande. Et au-delà d'une simple désobéissance, Samuel identifiera dans son attitude un rejet de Dieu. La trajectoire de Saül consistera à s'enfoncer progressivement dans la paranoïa par rapport à son pouvoir et la destruction de son propre peuple. En contraste avec Saül, premier roi, Dieu se choisit un autre roi selon son cœur. En contraste avec Saül, Dieu ne regarde pas à l'apparence et il choisit un jeune berger pour diriger son peuple et en prendre soin. J'ai nommé dans le texte David. David sera connu pour sa générosité. Cette générosité, elle se voit déjà dans le fait qu'à deux reprises, il a l'occasion de se débarrasser de Saül qui le poursuit pour le faire mourir. Et il ne le fait pas, il l'épargne. Mais la générosité de David, on va la retrouver ce soir dans notre texte. Ce contraste entre les deux ne signifie pas que David est innocent, irréprochable. On l'a vu dans le passage il y a quelques semaines d'1 Samuel 27. En se rendant chez les Philistins, et vous avez une carte ici pour vous présenter un peu la situation, un peuple en guerre avec Israël et Juda, David est entré dans un double jeu qui n'est pas sans conséquences ni sans danger. David, et en plus, on verra qu'il y a eu des conséquences graves pour d'autres, mais David est donc loin d'être parfait, mais ce qui le différencie de Saül, ce sont ses retours à Dieu. Et c'est justement ce qu'on va voir ce soir, comme un retour à Dieu. Commençons avec le premier point, à bout de force. Dans l'enchaînement des événements, si on regarde le chapitre précédent, on découvre que la grande crise qu'on va connaître ici, elle est précédée par une délivrance inattendue, providentielle. J'ai dit il y a quelques instants, David s'est rendu chez les ennemis philistins, comme prétendant retourner sa veste pour échapper à Saül. Et chez les philistins, il arrive à maintenir par le mensonge cette double vie, mais son plan a ses limites lorsque les philistins décident d'attaquer précisément Juda, Israël. David est convoqué avec ses hommes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se montrer loyal aux Philistins ou alors à son propre peuple ? Il va devoir se positionner. Mais là, providentiellement, les princes philistins décident eux-mêmes de le renvoyer avec ses hommes. Autrement dit, il n'aura pas à se positionner. Il résolve la tension à sa place. David fait mine d'accepter à contre-cœur, mais intérieurement, ça a dû être un ouf de soulagement. Autrement dit, on a ici, juste avant, providentiellement, une délivrance inattendue. Et c'est l'occasion un peu de se poser la question, si nous sommes chrétiens ce soir, la manière dont on peut interpréter les circonstances de notre vie. Est-ce qu'on n'a pas tendance à tirer des conclusions hâtives de nos circonstances ? Une délivrance providentielle, et sur la base de cela, on se dit que tout va se poursuivre sur la même lignée. De manière providentielle, on obtient le travail qu'on a toujours souhaité ou quelque chose auquel on aspirait tellement. Providentiellement, la providence est là, Dieu à l'œuvre, et pourtant la suite sera plus difficile. On s'attend à ce que ce soit pareil, mais quand viennent les difficultés, on est surpris, voire dans l'incompréhension. Ce texte rappelle qu'on peut vivre une délivrance providentielle et tout en voyant des circonstances par la suite très rapidement se détériorer. On vient au début de ce passage et on se souvient qu'il y a eu ce rendez-vous avec l'armée des Philistins à une centaine de kilomètres de Tsiklag, là où David et ses hommes demeurent. Et en leur absence, le narrateur nous apprend que des Amalécites, un peuple nomade, a attaqué Tsiklag. Les Amalécites sont listés dans les peuples que David et ses hommes ont combattus dans l'année écoulée. On peut estimer que c'est par vengeance qu'ils ont fait ce raid, cette fois-ci à Tsiklag. Ils la retrouvent, ces hommes, David et ses hommes, pillés, brûlés, leurs femmes et leurs enfants emmenés, très probablement pour être vendus en esclavage. Et face à ce spectacle de désolation, face à la perte de leur famille, David et ses hommes commencent par pleurer. Ils sont anéantis. Ils pleurent. Selon l'expression française, toutes les larmes de leur corps, ils sont à bout de force. Mais la tristesse, elle va progressivement se transformer en colère, en amertume. Ils sont à bout de force. Et ce n'est pas simplement ces 5 à 8 années de traque où Saül était en train de les poursuivre. Ce n'est pas simplement la fatigue de ce parcours de ces 100 kilomètres environ. C'est en plus de ça la conscience d'avoir tout perdu. Ils ont tout perdu, leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. Avec cette amertume, cette colère, ils sont en colère contre David, leur leader. N'est-ce pas lui qu'ils ont suivi ? N'est-ce pas lui qui a échafaudé ce plan chez les Philistins ? Et la colère et l'amertume sont telles qu'ils pensent à le faire mourir par lapidation. David se trouve isolé. On ne trouve pas, comme ailleurs, un soutien chez un tel et un tel. Il est isolé, on veut le lapider. Cible des critiques, de l'hostilité des hommes aussi. Il se retrouve à bout de force face à la perspective de la mort. William Cowper est un auteur-compositeur anglais du 18e. Il a connu une vie troublée, difficile, luttant à plusieurs reprises avec la dépression. À l'âge de 6 ans déjà, il avait perdu sa mère. Et pendant sa jeunesse, il va vivre plusieurs phases de dépression, au point où il viendra un moment à désirer se suicider, la mort. Après avoir été placé dans un asile psychiatrique pendant un temps, il va faire la connaissance d'une certaine Marie Unwin. Marie et sa famille vont lui témoigner une générosité, une bienveillance, une hospitalité qui vont lui faire le plus grand bien. Mais par la suite, après avoir épousé Marie, qui est en quelque sorte devenue sa meilleure amie, comme une seconde mère pour lui, Marie va tomber gravement malade. Il entre à ce moment-là dans une sérieuse dépression. Et c'est dans cette crise qu'il va rédiger un de ses cantiques les plus célèbres, que je traduis ici de l'anglais. « Où est la bénédiction que j'ai connue ?» lorsque j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois. Où est la vision rafraîchissante pour l'âme de Jésus et de sa parole ? Quelles heures paisibles j'ai connues, leurs souvenirs, mais encore si doux, mais elles ont laissé un vide douloureux que le monde ne peut remplir. Et c'est peut-être l'expérience de l'un ou l'autre d'entre nous, sentir à bout de force, et comme l'un après l'autre, l'une après l'autre, des épreuves qui s'enchaînent. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas à un moment ou à un autre. Où va-t-on se tourner quand on est à bout de force ? Ça nous amène au deuxième point, sa force dans le Seigneur. J'ai mentionné des destins croisés, les destins croisés de Saül et de David, et c'est, semble-t-il, l'intention de l'auteur de les mettre en parallèle. Dans ces derniers chapitres, La chronologie n'est pas strictement respectée et au chapitre 28, l'auteur nous parle de Saül et de la nuit juste avant ce combat contre les Philistins. Pourquoi est-ce qu'il introduit Saül là ? On parlait de David, pourquoi est-ce qu'il parle de Saül ? Eh bien, n'est-ce pas justement pour dresser un contraste entre les deux ? Ils ont en commun des circonstances difficiles, mais il y a des différences dans la manière de les gérer. Dans sa rage contre David, Saül avait fait mourir les 85 prêtres qui portent les faux, se coupant de la possibilité, d'une possibilité d'être à l'écoute de Dieu. Un seul prêtre a survécu au massacre, Abiathar, dont le texte parle ici au verset 7. Abiathar est désormais du côté de David. Et cette fameuse nuit, Saül veut avoir une connaissance de l'avenir. Il veut avoir une parole de la part de Dieu. Et il est prêt pour cela à se tourner vers une voyante qui invoque les esprits. Et en faisant appel à une nécromancienne, il veut parler à Samuel, mort quelque temps plus tôt. Et vous voyez l'ironie, il veut entendre une parole de la part de Dieu, mais il est prêt pour cela à consulter une nécromancienne. Et avant cela, il a fait tuer 85 prêtres. Et là, il veut prétendre écouter Dieu en s'adressant à un mort, en contradiction flagrante avec sa parole. Et cette nuit-là, quand il apprend qu'il va mourir, le lendemain sur le champ de bataille, Saül, comment est-ce qu'il réagit ? Eh bien, il nous est dit qu'il est épouvanté, qu'il s'écroule de tout son long, l'auteur dit. Et il poursuit en disant, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. À l'écoute de cette parole, les forces de Saül lui manquent. Eh bien, pour David, ce sera précisément l'inverse. Regardez le verset 6, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Par elle est plus visible dans d'autres versions, « Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. » « Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. » Et cette parole, elle met en évidence trois contrastes entre Saül et David. Saül perd toutes ses forces alors que David va trouver ses forces dans le Seigneur. Saül se tourne vers une nécromancienne alors que David s'appuie sur l'Éternel. Saül veut parler à un mort alors que David s'appuie sur l'Éternel. Mais trouver ses forces en Dieu, ça veut dire quoi concrètement ? Au-delà du parallèle avec Saül, c'est la suite qui l'illustre. Dans la foulée de cette expression, David demande à ce que Abiathar vienne avec les faux. Il utilise le moyen disponible à ce moment-là, à cette époque-là, pour entendre ce que Dieu veut lui dire. Et pour être honnête, on ne sait pas exactement comment fonctionnait cet effort. On ne sait pas exactement comment on pouvait comprendre, entendre cette parole du Seigneur. L'auteur n'entre pas dans le détail, mais l'accent est mis précisément sur le fait qu'il a été consulté et que Dieu a parlé, a répondu. Qu'est-ce qui ressort de cette révélation ? Eh bien, David sait qu'il doit poursuivre les assaillants. Et la promesse lui est faite qu'il libérera les prisonniers. Trouver ses forces en Dieu, pour nous aujourd'hui, ça signifie s'appuyer sur sa parole, se tourner vers sa parole. Dans le livre de Samuel, on le retrouve, si vous n'êtes pas certain de le retrouver ici. Quand Jonathan veut encourager David, il utilise la même expression, l'auteur, en disant que Jonathan fortifia David en Dieu. Et comment il le fait ? En rappelant la promesse que Dieu a faite à David, qu'il régnera à la place de son père. Comment appliquer ce principe de trouver sa force dans le Seigneur pour nous ? Est-ce que trouver sa force en Dieu par sa parole, c'est l'équivalent de toucher du bois pour les chrétiens ? Il suffit d'avoir une Bible sous la main, on l'ouvre et c'est reparti. Ou alors peut-être comme une sorte de pensée positive qui tout à coup nous envahit, tout ira bien. Et c'est reparti. Non, c'est plus solide et réel que ça. C'est méditer les paroles de Dieu en les appliquant à nos circonstances. Je me souviens avoir entendu le témoignage d'un couple qui avait perdu leur enfant de 8 ans, qui a été renversé par une voiture devant chez eux. Et régulièrement, ils se sentaient à bout de force dans ce deuil qu'ils vivaient, avec toutes ces vagues successives. Et dans leur situation, voici les paroles qu'ils ont régulièrement méditées et par lesquelles ils ont été réconfortés. Le psaume 61, « Des extrémités de la terre, Dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge. Le rocher trop élevé pour eux, c'était une manière de dire cette incapacité à se relever, le deuil qui les tire vers le bas. Et pourtant, ce constat que Dieu allait être leur refuge. Pas plus tard qu'hier, j'entendais deux croyants dire que le plus grand réconfort de ces derniers mois a été le fait de se souvenir de ces quelques paroles au début du psaume 23, alors que l'avenir est incertain, qu'il y a précarité dans le présent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David lui-même, qui dans ce psaume est inspiré, c'est la parole de Dieu. Quelle parole est-ce que nous, on va méditer dans ces moments-là où on se sent à bout de force, incapable par nous-mêmes de nous relever? Pour David, ce retour à Dieu, c'est sa force. On se souvient que ce qui caractérisait le chapitre 27, c'était l'absence de toute référence à Dieu et dans ses décisions, pareil. Parallèlement, le mensonge, les violences questionnables. Mais notez ici, mais David trouva sa force dans le Seigneur son Dieu. Quelqu'un dira, oui, mais dans la situation, d'accord, il a cette promesse, mais ça ne lui dit pas qui a fait ce pillage, où les trouver. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans la recherche qu'ils entament, ils vont providentiellement obtenir le guide qu'il leur fallait. Les hommes de David retrouvent un esclave égyptien abandonné depuis 3 jours. Il est à bout de force, 3 jours sans manger, sans boire. Et en plus, on découvre dans l'échange que si on l'a abandonné, c'est précisément parce qu'il était malade. Pour son maître, cet esclave représentait une perte. Perte de temps, perte d'énergie, perte de biens. Mais pour David, quel gain! Quel gain! Découvre à travers lui des informations précieuses et il sera leur guide. Un marché est conclu entre David et lui. Il sera protégé. Et ils vont retrouver ces Amalécites qui se croient hors d'atteinte. Ils font la fête, ils boivent, ils festoient, ils sont dispersés. Et malgré leur nombre, ils vont devenir une proie facile pour David et ses hommes qui sont avec lui. Comme Dieu l'avait promis, tous les prisonniers seront libérés, leurs femmes, leurs enfants retrouvés. Et c'est aussi un grand butin qui sera récupéré. À bout de force, David retrouve ses forces dans le Seigneur par sa parole. À bout de force, un esclave égyptien devient le moyen que Dieu utilise pour accomplir sa promesse. Et on entre dans la dernière partie de ce texte. La générosité en force. Dites-moi si ça vous dit quelque chose. La taille, la capitation, le dixième, le vingtième, les aides, la gabelle, les traites. Ça vous dit quelque chose? Ce sont les impôts au temps de la monarchie ici en France. Et vous qui vous plaignez d'être trop taxé, là à l'époque c'était, on estime à 20% de ces biens qui étaient imposables. Et ces inégalités, ces taxes, ça va être une des raisons pour la Révolution française. Au chapitre 8 de ce livre de Samuel, il est chargé, Samuel, d'annoncer à ce peuple tout ce que représente le fait d'avoir un roi. Tout ce que le roi leur prendra, fils, filles, les meilleurs champs, les meilleures vignes, les meilleurs bœufs, les meilleurs biens, tous les meilleurs produits en fait. C'est ça, avoir un roi. Un roi, ça s'entretient, et comme les autres nations, il sera caractérisé par ce qu'il va prendre. Mais qu'est-ce qui caractérise ici David? C'est ce qu'il donne. C'est sa générosité qui est mise en avant. On le voit au moins dans 3 marques de générosité. L'auteur mentionne qu'il y avait 200 soldats qui ne sont pas allés jusqu'au bout dans cette poursuite des Amalécites. Et lorsque David revient avec ses hommes et le butin, ces hommes qui ont combattu disent que ceux qui n'étaient pas là, ils n'ont pas droit au butin. Leurs femmes, leurs enfants, ok, mais pas droit au butin. Mais David ne les laisse pas faire. Il impose un principe qui sera valable là et pour toute la suite. Ceux qui sont restés avec le matériel devront recevoir la même part que ceux qui ont combattu. Il voit dans ce partage le reflet de la générosité de Dieu qui leur a permis de trouver leur famille. Première marque de générosité. La deuxième marque de générosité, eh bien, elle se voit dans la manière dont dont David s'adresse à eux. L'auteur les présente ici comme des méchants et des vauriens, et au départ, c'est effectivement leur profil quand on les décrit. Mais comment est-ce que David les appelle ? Mes frères, mes frères. Il aurait des raisons d'être condescendant ou au minimum de se montrer distant, mais il les appelle ses frères. Deuxième marque de générosité. La troisième marque de générosité se voit dans les cadeaux que David fait ici aux anciens de Juda. Alors c'est vrai, le curseur entre générosité désintéressée et générosité intéressée est difficile à placer. Mais où qu'il soit, la générosité témoigne que ça n'allait pas de soi. La générosité témoignée, plutôt, ne va pas de soi. Il se montre généreux, quoi qu'il en soit. Trois marques de générosité. Qu'est-ce que ça fait d'avoir affaire à un roi généreux ? Est-ce que ça ne nous donne pas envie d'avoir confiance en lui ? Est-ce que ça ne nous donne pas envie de le suivre ? Si Samuel nous place dans l'attente d'un roi selon le cœur de Dieu, généreux, digne de confiance, la suite de 2 Samuel nous montre qu'on attend un roi plus généreux encore. On attend un roi plus digne de confiance encore. Dans sa parabole sur le royaume, Jésus affirme que les ouvriers de la première heure, comme les ouvriers de la dernière heure, devraient recevoir la même part. Pourquoi ? Parce que l'entrée dans son royaume est basée sur la grâce, sa générosité témoignée. À la Pentecôte, quand Pierre parle de Jésus, le Messie ressuscité, comment est-ce qu'il le décrit ? Comme un roi qui a emporté un butin et qui, dans sa générosité, le déverse sur les croyants, son esprit. Avec la même image, mais cette fois-ci en parlant des dons faits à l'Église, Paul parle de Jésus comme un roi généreux. En Éphésiens 4. Et quant à la manière de nous traiter, avec ce que nous sommes, l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Jésus est connu pour sa générosité. Il n'est pas connu pour ce qu'il prend dans notre vie. Il est connu pour ce qu'il donne. Et comme il l'a dit lui-même, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors en Jésus, on est invité, nous, à s'approcher du trône de la grâce avec confiance. En Jésus, on est invité à avoir confiance en sa parole, en sa promesse, lorsqu'on est à bout de force. En Jésus, on est appelé à lui donner nos vies entières, le suivre avec confiance. S'en remettre à lui, parce que Jésus est le roi, selon le cœur de Dieu, qui est digne de confiance. Amen.